Ambient Memory sur Radio Graphite, l'émission dédiée aux musiques ambiantes. Philippe Hall vous transporte vers un nouveau voyage. Ambient Memory, l'interview.
Bonsoir à toutes et à tous, Ambient Memory, l'interview avec un hors-série ce soir. J'ai eu le plaisir d'interviewer Daniel Tekou, plus connu sous l'alias DJ Radium. Nous avons parlé de son parcours musical, de sa carrière, mais aussi de son ouvrage paru en novembre 2023 intitulé DJ Radium, le théâtre du bruit, qui nous raconte ses 30 ans de carrière, écrit par Florian Pitiou, Roussillon, chez l'éditeur Signal Zéro. Je vous laisse apprécier cette interview téléphonique.
Ambient Memory.
Eh bien, bonsoir Daniel. Eh bien, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation d'Ambient Memory.
Merci à toi.
Et bah du coup, on va parler de ton ouvrage qui est sorti donc en novembre 2023, donc ça fait quelques mois maintenant. Ça retrace du coup les 30 ans de carrière, enfin ta biographie. Donc bon, j'imagine que ce n'est pas fini, parce que bien souvent quand on fait une biographie, c'est qu'on est sur la fin, parce que je ne te souhaite pas que ce soit le cas. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses qui t'attendent dans les mois, dans les années à venir. Je l'espère en tout cas.
Oui, je l'espère aussi.
Bien. Eh bien écoute, on va commencer par le commencement, l'enfance. Donc j'imagine que tu écoutais de la musique divers et variés durant ton enfance, peut-être ton adolescence. Comment tu en es venu à écouter de la musique? Est-ce que tes parents en écoutaient également?
Comme je raconte un peu dans le livre, la grosse passion pour la musique, c'est plutôt venu au début de l'adolescence, fin de l'enfance, début de l'adolescence. Mes parents, mon père n'était pas trop fan de musique, ma mère beaucoup plus. Surtout de classique, de jazz et jusqu'au rock d'Elvis Presley qui m'a fait découvrir. Et oui, durant l'enfance, même si je prenais des cours de musique, c'était quand même un peu plus une matière scolaire, plus qu'une passion. Et j'écoutais, oui, surtout, comment dire, un peu de classique, un peu d'Elvis, mais sans plus. C'est surtout à l'adolescence, ouais, vers 10-11 ans, qu'est arrivée la grosse passion pour la musique.
D'accord, tu étais aussi fan de pas mal de groupes, dont les Beatles aussi. Tu étais assez fan, c'est ce que tu racontes en tout cas.
C'est vraiment eux qui m'ont donné le virus et l'envie d'en faire ma vie. Effectivement, je suis encore un énorme fan de leur œuvre.
Après, tu as aussi une formation en musique. Tu as fait du piano, solfège et instruments.
Oui.
C'est, je pense, que ce qui t'a donné aussi envie de faire ce que tu fais actuellement. Tu as aussi eu un cadeau de ton papa, donc un synthétiseur Yamaha DX7. Enfin, tu sais, en tout cas, c'est ce que tu dis dans l'ouvrage.
Oui, tout à fait.
Est-ce que ça a été aussi un petit peu le déclic avec, je crois que tu es aussi un enregistreur.
Oui.
C'est de matériel, c'est deux éléments, c'est cet instrument et puis cet enregistreur. Est-ce que ça a été aussi un déclic pour faire des enregistrements?
Oui, carrément. Disons que passer la découverte des Beatles et l'envie de faire de la musique, dès que je me suis mis à écouter des musiques plus modernes, enfin contemporaines de l'époque, donc les années 80, j'ai tout de suite été attiré par le côté plus technologique, par la musique électronique, plus que par le classique format guitare, basse, batterie. Et donc effectivement le DX7 ou l'enregistreur ou les boîtes à rythme que j'ai pu avoir à l'époque, c'était vraiment des machines dont je rêvais la nuit, et quand je les avais enfin, c'était vraiment le joujou principal sur lequel je passais toutes mes journées et sur lesquelles je m'éclatais à fond, quoi.
Après, il y a eu ta période collège où tu as créé un groupe, monté un groupe, Rubber Soul, avec d'autres camarades de classe. Donc ça a été ton premier concert, je crois, en sixième ou en cinquième.
5e, si je me souviens bien, oui.
Donc bah, du coup, ça t'a mis un petit peu le pied à l'étrier, peut-être que tu ne le savais pas forcément à cette époque-là. Est-ce que ça t'a permis aussi de parfaire un petit peu justement le fait de jouer devant un public? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été une étincelle, un élément qui a fait que voilà, ça t'a permis de continuer?
Oui, le premier concert en soi, c'était plutôt, c'était pas une grande réussite. J'en étais conscient même déjà à l'époque. Ça m'a permis un petit peu, oui, peut-être de découvrir ce que c'était que la scène. Je me rappelle au collège, je faisais du théâtre aussi, donc ça m'a permis de découvrir la scène. Le fait de faire de la scène, ça m'a tout de suite plu. Après, niveau des concerts musicaux, c'est plus à partir de la troisième et surtout du lycée que je me suis mis à en faire plus régulièrement et à vraiment m'approprier la scène.
Tu faisais aussi, comme tu aimais la musique, tu allais à différents concerts, différents événements. Tu as pu voir pas mal, oui, pas mal d'artistes, pas mal de groupes, oui, aussi. En, oui, premier lieu avec tes parents, après un peu tout seul.
Oui,
donc voilà, ça a été progressif. Tu as été un petit peu libéré de pouvoir faire un petit peu ce que tu voulais.
Oui, oui, tout à fait. Je crois que j'ai vu quasiment toutes mes idoles de l'époque en concert.
Et du coup, à partir du lycée, tu continues toujours à faire de la musique, peut-être à sortir un petit peu plus. Il est vrai qu'au début, tu n'étais pas très fan de la techno, enfin des musiques électroniques et de la techno. Comment tu en es venu justement à arriver justement à aimer ce genre musical?
Alors, oui, comment dire, alors, donc même si j'étais tout de suite attiré par la musique électronique, donc faite sur instruments électroniques, la techno de rêve telle qu'elle est apparue à la fin des années 80, la house, tout ça, c'était effectivement au départ pas du tout ma tasse de thé. Je trouvais que c'était trop simpliste, trop facile et trop simpliste, et limite que ça s'adressait à des gens qui n'avaient pas vraiment une grosse culture musicale. Et c'est quand j'ai commencé à sortir dans les rêves parties où j'ai pu appréhender cette musique dans son vrai contexte, c'est-à-dire sur du gros son et pas à la radio ou chez soi, et de découvrir des styles de musique comme le hardcore qui vont beaucoup plus loin dans la créativité, qui sont vraiment absous de toutes les règles musicales existantes. Là où ce qu'on pouvait entendre à la radio, ça restait un peu mélodique, des petits pianos, tout ça. Le hardcore m'a fait vraiment découvrir un style de musique où il n'y a plus du tout de mélodie, où toute la recherche se fait vraiment sur les sonorités. Et c'est ça qui m'a accroché.
Oui, c'est ce que tu mentionnes justement dans ton ouvrage. Alors, la personne qui t'a fait un peu découvrir les rêves, c'est Denis, qui deviendra après un peu avec toi, le duo, oui, Micropoint. C'est bien, oui, ça.
C'est peut-être pas lui qui me l'a fait découvrir, mais c'est effectivement la première personne qui m'en a parlé, qui a attiré mon attention sur les rêves parties. Sur le fait que la house, c'était pas la radio qu'il fallait l'écouter.
C'était dans différents, oui, événements. Du coup, tu, oui, as aussi monté un autre groupe. Enfin, je reviens un petit peu là, à Robert Soul. Après, il y a eu The Sweets of Sound. C'est un, oui, autre groupe aussi que tu as créé. C'est là que tu as rencontré Denis, qui, oui, sera le bassiste justement de ce groupe.
Oui.
Et donc, comme je te disais, la moitié de Micropoint, Alcor. Donc voilà, de fil en aiguille, du coup, vous jouez, vous sortez, si, mm-hmm, je puis dire, et tu découvres le hardcore plus en Hollande et pas forcément en France.
Oui, d'abord en France, mais effectivement, très vite, je suis parti en Hollande faire des soirées, vu que c'est un peu le berceau du gabber et vraiment une scène, la scène où le hardcore s'est développé le plus au début des années 90.
Le théâtre du bruit prouve notre puissance. Le théâtre du bruit prouve notre puissance.
Tu as fait de la production. Est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont venues se greffer? Donc il y a peut-être Denis qui t'a un petit peu aidé, ou d'autres personnes qui t'ont fait faire du son, enfin, ou tu travaillais tout seul?
Oui, non. On a commencé avec Denis, un troisième comparse au sein du label Gob2, même si à l'époque on était encore un peu partagé entre techno, trans, hardcore. Après le gros moment de production purement hardcore, c'est venu dans la deuxième moitié des années 90, plus avec le label Dead End, dont on faisait partie, qu'on a créé avec Denis Alcor, mon partenaire de Microcoin, et d'autres artistes parisiens comme Speedy, Xarmagena, Sarinso. C'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment spécialisé et fixé sur le développement du hardcore en particulier.
Il y a eu aussi le premier label, donc Gob2, de Gilles Machaud.
Machac.
Du coup, vous avez pu créer justement avec Denis peut-être Micropoint et aussi la naissance de DJ Radium par la même occasion. Donc tu expliques en fait que pour le DJ Radium, que tu devais trouver un nom assez rapidement, et c'est en regardant un vinyle de Lisa N. Elias où il y avait le mot Radium justement qui t'a inspiré justement ton nom de scène.
Oui, tout à fait, exactement.
C'est bien ça. Donc du coup, ça vous a permis d'affiner pas mal de choses, hein, surtout pour toi, travailler le DJing, où tu mixais, on va dire, chez toi, et du coup, tu as été projeté directement sur scène lors d'une soirée. Du coup, ça n'a pas été forcément simple. Enfin, tu peux nous expliquer, si tu veux bien, parce que c'est peut-être pas non plus le moment le plus sympathique que tu as pu vivre justement à ce moment-là.
Oui, enfin après ça, c'est le cas pour peut-être tous les DJ, ou je pense vraiment tous les artistes. Il y a toujours un moment au début où il faut qu'on s'approprie la scène, le fait de jouer sur scène, et il y a toujours un moment au début où on fait des sets ratés et on se tape un peu la honte en public. Mais bon, je pense que c'est un passage obligé pour tous les artistes qui jouent sur scène.
Tout à fait. Et aussi,
ce qui ne te tue pas te rend plus fort, et c'est ce qu'il faut en garder, apprendre de ses erreurs, tout ça.
Tout à fait, on en devient plus grand, tout à fait. Et ce qui est aussi une histoire de son, parce que du coup, tu expliquais que le son n'est pas le même. Forcément, quand tu mixes chez toi et que tu te retrouves dans une soirée avec beaucoup de kilowatts de son, forcément, le rendu n'est pas le même. Est-ce que du coup, c'est perturbant, en tout cas pour une première scène?
Oui, carrément, les basses sont beaucoup plus présentes sur du gros son que chez soi, sur ces petites enceintes. Elles prennent une dimension vraiment beaucoup plus grosse, beaucoup plus présente. Et c'est ce travail-là dont on n'a pas l'habitude chez soi.
Tu as aussi donc de nombreux labels et sous-divisions. Donc il y a Audiogénique. Alors je vais peut-être en oublier, hein, j'en citais pas mal. Après on reprendra, on décortiquera un petit peu si tu le veux bien. Psychic Génocide. Androgyne, oui. Network.
C'est un projet artistique.
Un projet artistique, d'accord, ok. Oui. Et Dead End Limited, c'est un label aussi à toi ou pas du tout?
Oui, c'est un sous-label de Dead End, donc le label qu'on a créé avec les artistes parisiens que je citais tout à l'heure.
D'accord. Il y a d'autres labels, donc toujours dans le domaine du hardcore, et après on en parlera aussi dans le Frenchcore. Comment ça s'articule justement, parce qu'il y a pas mal de labels. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, chaque label, chaque couleur, je ne sais pas si c'est chaque couleur de la musique hardcore que représente un label.
Alors au départ, donc c'était Dead End qu'on a créé donc avec les artistes que j'ai cités tout à l'heure. Qui était un peu musicalement orienté, hardcore sans concession, assez industriel, assez rapide, où chacun vraiment mettait sa contribution dans le son du label. Donc Dead End Limited, qui était le sous-label de Dead End, qui était encore plus extrême et sans concession. Par la suite, j'ai commencé par monter à Psychic Génocide avec ma copine de l'époque, Déborah, pour faire un hardcore un petit peu plus abordable, un petit peu plus rond, un petit peu plus dance floor. De ce label, on a continué, elle a fait Neurotoxique dans son coin. On a réuni les deux labels, Psychic Génocide et Neurotoxique, sous la bannière Audiogénique. Donc qui est devenue la société qui nous a permis de chapeauter ces deux labels et tout ce qu'on a créé par la suite, comme Arena par exemple. Et voilà, moi je suis parti d'Audiogénique au milieu des années 2010, et depuis j'ai le label I Am Frenchcore, donc plus orienté Frenchcore, comme ce qui se fait aujourd'hui.
Donc après, avec Micropointe, donc vous avez sorti Neurophonique, c'est le premier EP, premier album de Micropoint. Du coup, tu en parles. Donc, c'est ce qui a inspiré aussi le titre de ton ouvrage, Le Théâtre du Bruit, parce qu'il y a un morceau justement où on entend justement ça, le Théâtre du Bruit.
Pour notre puissance, oui, à fait. Mais cette phrase est très emblématique. Je pense que c'était vraiment celle qui m'est venue à l'esprit directement pour quand il s'agissait de trouver un titre. Je pense que c'est la phrase qui résume ma vie et ma démarche musicale, ce que je veux faire en musique.
Il y a eu le vinyle qui a été qui est sorti sur Dead End Limited, c'est bien ça?
Non, Dead End tout court.
Et donc le CD sur Epitech. Donc Epitech, oui. Pardon, le label donc de Laurent Haut, notamment. Oui. Alors, justement, pourquoi il y a eu le CD sur un label et le vinyle sur l'autre? Est-ce que c'est monnaie courante ou ça s'est fait
non,
comme ça
hein? Comme je le dis dans le livre, à l'époque, le CD, c'était vraiment un marché totalement nouveau pour nous. Autant avec Dead End, on commençait à bien maîtriser le vinyle, tout ce qui est distribution. Autant CD, c'était totalement nouveau, donc un peu risqué. Et à côté de ça, Epithet, donc Laurent Haut, était en train de développer un circuit pour distribuer des CD hardcore. Il nous a proposé, on s'est dit que c'était peut-être la meilleure solution.
Après, le CD du coup a pris de l'ampleur, parce que tu disais aussi que bah justement, on pouvait facilement retrouver des compilations hardcore en grande distribution, notamment. Est-ce que ça s'est un petit peu plus généralisé?
Oui, enfin, on pouvait facilement... Peut-être pas facilement, mais il y en avait. Après, ça restait quand même très confidentiel par rapport à l'ampleur de toute la production hardcore qu'il y avait à l'époque. Et effectivement, après, au début des années 2000, notamment avec toute l'arrivée d'Internet, du numérique, beaucoup plus à la portée de tout le monde, le CD du marché hardcore s'est beaucoup développé. Et pendant de 2000 à 2005, c'était vraiment un marché florissant.
Donc oui, après, ben, ça s'est un petit peu essoufflé avec, malheureusement, le téléchargement illégal, après, notamment. Malheureusement, oui. Après, bon, ouais. tout genre musical confondu, c'est vrai que tout le monde a souffert de tout ça. Alors après, je ne sais pas si je suis dans la chronologie en fait, de l'histoire. On va revenir à Micropoint. Il y a eu un deuxième album donc chez Uncivilized World Entertainment. Donc c'est un petit peu le développement du label Epithète.
À moins que
je dise peut-être des bêtises, non ? Par contre, autant le premier, vous étiez assez libre. Là, dans le bouquin, tu disais que vous aviez un petit peu plus de contraintes, que ce soit musicales et aussi notamment pour la pochette qui avait été imposée.
Oui, enfin, des contraintes, c'est jamais des contraintes. Enfin, on nous a forcé à rien. Voilà, on a les contraintes qu'on accepte de se mettre nous-mêmes. C'est juste, voilà, on savait que un tel attendait ceci, un autre tel cela, et on s'est dit ouais, on va jouer le jeu et on va le faire en fonction de ce qu'on attend de nous. Après, personne ne nous a rien imposé, ni même la pochette. Après, comme je le dis aussi dans le livre, avec le premier album, on avait la sensation de tellement tout avoir mis dedans pour ce qui est du hardcore pur et dur, qu'on était plus enclin justement pour le deuxième de suivre toutes les évolutions qu'on nous proposer ou conseiller, plus pour pas refaire une deuxième fois la même chose et qui sera forcément moins bien. C'était aussi une façon pour nous de trouver une voie pour évoluer dans notre son.
Tout à fait, après en plus, bon, on en reparlera après, mais Micropoint encore a évolué après. Vous étiez de 2, vous êtes passé à 4.
4, oui.
Voilà, et là c'est un peu plus instrumental, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, tout à fait.
Voilà, plus d'instruments. Moins de machines et plus d'instruments.
Renegade Master.
te considères comme l'inventeur du Frenchcore avec l'album Paranoia Performance, mais bon, ça, oui. Tu ne te considères apparemment pas comme tel, pas comme inventeur en tout cas. Est-ce que c'est vrai?
Oui, bah, c'est comme pour tous les styles de musique. Je pense qu'il n'y a aucun style de musique qui a été inventé par une personne. C'est toujours une émulation entre plusieurs artistes, un petit roster d'artistes qui se prennent de kiff pour le même son et qui le développent au fur et à mesure. Donc, effectivement, le Frenchcore ne déroge pas à la règle. Je ne me considère pas comme l'unique gars qui a apporté ce style. Il y a d'autres artistes qui sont impliqués. C'était beaucoup une mécanique de questions-réponses avec d'autres artistes de ping-pong, de je fais ci, je kiffe trop. Un tel a fait ci, je kiffe trop, je veux faire un truc dans le style, je le fais. Une troisième personne qui s'inspire et ainsi de suite entre peut-être 5 ou 6 artistes. Ça finit par donner quelque chose que les gens qualifient comme un style à part entière.
Disons que tu as quand même contribué, on va dire, à l'essor de ce mouvement, enfin de ce style musical, on va dire.
Oui, j'ai contribué, ça, je revendique à fond. Oui. Mais de là dire que je suis l'unique créateur, c'est pas quelque chose que je dirais.
Et donc, le Frenchcore, ce que tu expliques, ce qui est assez important, c'est le kick. Ça détermine vraiment le son de ce style musical. Justement, est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots, justement, comment reconnaître du Frenchcore, enfin en tout cas le kick?
C'est un kick qui induit un groove en soi, à lui seul, de par une attaque très très sèche et dure, et une queue très, très grasse qui fait vraiment une note. Et ça donne un espèce d'effet de kick et basse à contretemps qui donne un groove en soi qu'on
reconnaît, c'est reconnaissable. Ouais. Le son, ouais. Frenchcore, du coup, est reconnaissable par ce kick, justement. Mm-hmm. On revient du coup aussi à Micropoint, donc troisième album, Exit Monkin, mm-hmm. Je crois que c'est ça.
C'était le
deuxième.
Quatrième.
Ah, c'est le quatrième, d'accord. Bah, donc on va parler du quatrième, puisque j'ai lancé la question, plus ou moins. Donc du coup, comme je disais tout à l'heure, donc là il y a un petit peu plus d'instruments, vous passez à 4. Comment les deux autres personnes sont arrivées, quel a été vraiment le cheminement pour passer d'un duo à un quatuor?
Oui. Disons déjà avec notre deuxième album, le fait de bosser avec des icos hors scène techno ou hardcore, même pendant la tournée, ça nous a donné envie de partir sur quelque chose de plus hybride. Comme je disais, on avait l'impression que niveau hardcore pur et dur, on avait tout donné dans le premier. Donc on voulait évoluer vers quelque chose de plus hybride entre musique électronique et musique plus jouée. Aussi peut-être un peu par nostalgie de notre groupe de lycée des années 80. Et donc voilà, déjà sur le troisième, on avait musicalement essayé de faire quelque chose d'un peu plus hybride, mais en restant plus ou moins à deux. Et avec l'évolution, on s'est dit que ce serait bien de s'adjoindre de vrais musiciens à temps plein qui feraient partie du groupe avec lesquels on pourrait créer ça. Et on a pensé tout de suite à Loki au chant et Mr. Parker à la guitare, qu'on connaissait déjà depuis quelques années, dont on appréciait le style et qu'on pensait que ça collerait bien. Et on est content du résultat.
Oui, et du coup, le live prend une autre tournure aussi, j'imagine. Donc je rebondis encore cela sur DJ, oui. DJ Radium. Mm-hmm. Donc tu faisais des DJ sets en vinyle. Après, l'évolution a fait que tu es passé sur le CD. Alors pareil, est-ce que la transition a été facile ou pas? Selon tes dires, c'était assez simple, mais...
Oui, c'était assez simple. Dans la mesure où il y avait déjà une bonne partie de mes sets où je jouais des productions de mots de mes labels, j'avais déjà les versions digitales. Et comment les platines, les pionnières sont conçues, c'est vraiment pour que un DJ vinyle puisse les prendre en main directement et que ça soit même limite plus facile qu'une platine vinyle. Donc oui, ça s'est fait très facilement.
Oui, au niveau des calages, après des techniques, j'imagine, oui. C'est beaucoup plus simple justement de caler au millimètre justement chaque morceau. Du coup, bah, c'est pareil, les sonorités ne sont plus les mêmes quand on mixe sur vinyle ou bah, sur CD ou en numérique. Donc il y a toujours cette histoire de son par rapport vraiment au gros son de système des différentes soirées. Donc c'est pareil, ce qui est une adaptation à avoir, c'est-à-dire dans le, on va dire dans l'enregistrement des morceaux, c'est-à-dire les fichiers numériques ou en tout cas le CD que tu apportes dans ton flycase. Voilà, est-ce qu'il y a un travail de son pour que vraiment justement le rendu soit le mieux possible?
Oui. Au niveau de la production, il n'y a pas eu vraiment de différence. C'est surtout au niveau des réglages des façades dans les soirées que ça a beaucoup changé. Là où, quand c'était réglé sur du vinyle, le CD pouvait sonner très très sec, aigu, un peu agressif. À partir du moment où ils sont mis à régler des façades sur du CD, avant de mettre beaucoup plus de basse, c'est le vinyle qui sonnait plus sur ce genre de façade. Donc au final, non, au niveau de la production, on est resté à peu près pareil.
Est-ce que tu mixes encore sur vinyle, du coup, est-ce que tu as des soirées où justement on te demande de venir jouer en vinyle ou plus du tout?
Non, ça je fais plus. J'en ai encore chez moi, ça m'arrive à l'occasion de les utiliser, mais vraiment en soirée, non, je fais plus sur vinyle.
L'évolution faisant chemin, donc c'est beaucoup plus facile aussi dans le transport quand tu voyages d'avoir une petite pochette avec un PC ou des clés USB, c'est plus léger.
USB, oui.
Ouais. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile à transporter, ça fait moins de surplus de bagages. Du coup, bah, tu as dû voir aussi en 30 ans de carrière bah, l'évolution du hardcore, du début des années 90 à ce qui se fait maintenant. Est-ce que selon toi, selon ton regard, l'évolution est belle ou alors il y a des choses vraiment qui sont peut-être un peu aberrantes ou pas cool du tout?
Bah, c'est un peu comme tous les styles musicaux. Enfin voilà, au bout de plusieurs décennies d'évolution, forcément il y a du mieux par certains côtés et du moins bien par d'autres. Ce qui est mieux, c'est que les productions sont beaucoup plus carrées aujourd'hui. Comment dire, après 30 ans d'exemple de ce qui marche et de ce qui marche pas, les artistes aujourd'hui font directement ce qui marche, donc c'est beaucoup plus efficace, beaucoup mieux produit. Après, fatalement, l'autre côté de la médaille, c'est plus stéréotypé, c'est un peu toujours tout le temps la même chose, alors qu'avant c'était beaucoup plus open et créatif. Mais bon, ça après, c'est pas spécifique au hardcore, c'est un peu pareil pour tous les styles de musique qui évoluent sur des décennies. Donc faut pas s'en plaindre, faut prendre le bon côté des choses, quoi.
Non, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à voir les DJ se prendre en photo, etc. Enfin, avoir le temps, en tout cas, de se prendre en photo. Que le DJ des années 90 était plutôt concentré à caler ses disques pour...
Après, ça, c'est pas un phénomène spécifique au hardcore, c'est un peu pareil dans tout, je dirais même plus loin que juste la scène musicale. C'est un truc de notre époque. Après, enfin voilà, c'est pas comment dire
ça, oui, non, ça englobe tous les genres musicaux, effectivement. Après, je mettais pas ça sur le compte du hardcore, mais c'est vrai que bien souvent on voit des DJ qui ont le temps de prendre des photos, etc. Donc c'est vrai que du coup ça a peut-être moins de charme de se dire voilà, le DJ était concentré sur ses platines avant et là il a le temps de faire d'autres choses qui n'ont aucun rapport avec le mix en lui-même. J'ai envie de dire.
Non mais oui, après bon voilà, c'est la génération réseaux sociaux, frime, tout ça. C'est dommage, mais bon voilà, c'est l'époque qui veut ça.
Tout à fait. Est-ce que tu utilises quand même un petit peu les réseaux sociaux? Tu dis que tu n'étais peut-être pas trop au fait de tout ça. Enfin, c'est peut-être pas quelque chose qui te passionne au plus haut point. Mais est-ce qu'aujourd'hui il faut être un petit peu sur les réseaux sociaux justement pour
Bon, après, même aujourd'hui, je fais un peu le minimum syndical, Facebook, Insta, j'ai même pas TikTok, même Insta, j'ai un peu du mal, donc voilà, je fais vraiment le minimum syndical. Non, ça n'a jamais été trop un truc qui était foncièrement ma tasse de thé. Bon, après, effectivement, à notre époque, on est obligé d'en faire un minimum, faire savoir ce qu'on fait pour exister sur la scène, mais bon, voilà.
Après, du fait de ta notoriété, ça t'aide peut-être, mais aussi ouais, d'indiquer voilà, quelles seront les soirées où tu seras présent DJ set. Du coup, c'est assez important. Est-ce que du coup, tu fais surtout des DJ sets, tout ce qui est micro-point, tout ça, est-ce qu'il y a d'autres projets ou pas du tout?
Bon,
Ou
en
tu
ce
as
moment,
d'autres...
non, entre radium et micro-point, c'est à peu près tout. J'ai eu un projet Dirty Electro il y a quelques années, mais c'était plus pour rigoler à la maison. J'en ai jamais trop fait en dehors de chez moi.
Partie de ces DJ qui aiment entre guillemets raconter une histoire lors d'un mix, c'est-à-dire que tu vas arriver peut-être avec une sélection, donc maintenant sur support numérique, sans forcément savoir quel sera le premier morceau. C'est en justement prenant un petit peu la température de l'événement, de la soirée où tu vas jouer, que tu vas pouvoir déterminer quel sera le premier morceau et l'enchaînement des autres morceaux,
et bien sûr. Aussi, oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment la base du DJ. DJing, les sets préprogrammés ou les setlists préprogrammés, c'est pas ce qui marche. Faut vraiment être à l'écoute du public en temps réel, au morceau près, et savoir comment dire, leur donner ce qu'ils attendent, que tu sais qu'ils vont aimer à certains moments, et savoir les leur faire prendre des chemins de traverse à d'autres. Je pense que oui, c'est ça le DJing avant tout.
C'est ce qui permet aussi de durer dans le temps et d'avoir justement 30 ans de carrière derrière soi.
J'espère, oui.
Oui. Enfin, je pense qu'en tout cas, ça doit y contribuer. Du coup, on est donc en 2024. Quelle est ta vision pour toi à partir de maintenant, de 2024? Est-ce que le hardcore, selon toi, a encore un bel avenir devant lui? Est-ce qu'il sera bien sûr encore amené à évoluer? Je pense que oui. Quelle est un petit peu ta vision de la chose?
Oh oui, je pense que le hardcore est encore loin d'être moribond. Après, comme tous les styles, ça change, ça évolue. Il peut y avoir des hybridations, mais le hardcore en tant que tel est encore de longues et belles années devant lui.
Tu parlais aussi à la fin du livre aussi, bien sûr de cette évolution du hardcore, que certains artistes aussi font appel à des, ce qu'on appelle des ghost producers. Enfin, c'est un peu partout, dans tous les styles, pas forcément dans le hardcore, mais dans d'autres styles musicaux électroniques. Est-ce que c'est un peu dans la normalité des choses, toi qui es dans le métier depuis 30 ans, comme on me le dit depuis tout à l'heure, selon toi, c'est vrai que soi-même faire ses productions, avoir mis entre guillemets ses tripes dans ses différents morceaux, est-ce que c'est quand même plus intéressant que faire appel à une tierce personne pour dire je te commande 12 morceaux, tu as tant de temps pour les faire et voilà. Comment tu vois la chose?
Moi, je condamne pas foncièrement le système des ghost producers. Comme je dis dans le livre, j'ai la passion du DJing et de la production. Après, je connais énormément de DJ qui sont très bons, comme tu disais, pour raconter des histoires, mais qui n'ont pas la patience pour rester en studio, produire des morceaux. Et d'un autre côté, je connais aussi beaucoup de producteurs qui sont très bons en studio, mais qui n'ont vraiment pas le goût de passer sur scène. Donc si les deux font un deal qui est bénéfique pour les deux, tout le monde est gagnant et le public aussi. Donc voilà, je suis pas foncièrement contre le système de ghost producer.
Ça fait partie un petit peu de l'air du temps aussi.
Oui aussi, oui.
Alors on va parler de l'ouvrage pur et dur, si je puis dire. Oui. Justement, comment a germé l'idée de faire ta biographie, retranscrire tes 30 ans de carrière? En fait, c'est donc Florian Pithion-Rossillon qui a rédigé en fait tes dires. Est-ce que c'est toi qui as proposé ce projet? Enfin, comment ça s'est fait?
Non, c'était lui. L'idée vient beaucoup de lui, mais il a même dû me travailler au corps pendant quelques années avant que j'accepte. Comme tu disais au début, une autobio, c'est un peu la chose à laquelle on pense quand on sent qu'on est en fin de vie, et je me sentais pas en fin de vie. Après, la crise du Covid qui a mis tout à l'arrêt m'a fait pas mal évoluer là-dessus, et je me suis dit que même si j'étais pas en fin de vie, c'était quand même un point où tout s'est arrêté, et que c'était peut-être le moment pour le faire, au moins une première autobio, quitte à la remettre à jour tous les 10 ans ou quelque chose comme ça.
D'accord, ça a germé pendant la Covid. Enfin, vous avez écrit ça pendant cette période néfaste.
On a écrit
ça
pendant le Covid, ouais. D'accord, mais ça fait bien depuis 2015-2016 qui me travaille au cœur pour que j'y arrive.
Oui, j'imagine. Après, en même temps, c'est pas évident. Enfin, déjà de retranscrire, aussi peut-être de se souvenir de tout, parce que c'est quand même assez détaillé. Bon, on en a déjà pas mal parlé, mais on va laisser les auditeurs ou les gens qui souhaitent se procurer l'ouvrage, justement le découvrir en le lisant. On va pas trop en dire quand même si on a dit déjà quand même pas mal de choses. Mais du coup, après, c'est pas évident. Enfin, ça peut pas se faire en 2 semaines. Forcément, il faut peut-être un travail de recherche, de mémoire, de se dire qu'est-ce qui s'était passé à cette époque, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Mais en tout cas, ça devait être un sacré travail.
Et du coup, on a mis 2 ans à peu près. Après, j'ai quand même une bonne mémoire. J'avais quand même encore tout en tête. J'ai pas eu trop besoin de faire de recherche.
Et du coup, un DJ, bah, qu'est-ce que ça fait pendant la Covid, enfin, mis à part écrire sa biographie, après tout était un petit peu à l'arrêt. C'est vrai que dans le milieu artistique, tout a été arrêté du jour au lendemain. Vous avez vraiment, enfin, en tout cas, les médias vous ont vraiment mis de côté. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti qu'on a en écoutant tout ce qui a été dit durant cette période assez troublée. Donc, j'imagine que c'est pas évident de s'occuper.
Non, beaucoup de Netflix.
Oui, j'imagine, peut-être des productions ou un peu de son, peut-être.
Après, il faut voir le bon côté des choses. Ça a quand même permis de faire beaucoup de trucs chiants, administratifs, qui traînaient depuis des années, que je n'avais pas le temps de faire. Donc là, j'avais tout le temps qu'il fallait. Ça m'a permis de régler pas mal de problèmes qui traînaient comme ça, de remettre pas mal de choses carrées. Et oui, de me remettre plus développer la production, vu que les soirées étaient à l'arrêt. Donc voilà, il n'y a pas eu quand même que du négatif qui en est ressorti.
Alors, et ton actu actuel, donc j'imagine que bon, tu dois être pas mal sollicité tous les week-ends et même autres jours de la semaine. Quels sont tes actus pour le mois de... Bah oui, pour l'été, mai, juin, juillet, août, ok. Quelles sont tes actus? Enfin, si tu peux en parler, hein, bien entendu, événements ou autres.
J'ai pas tout en tête. Tu veux dire, j'ai sorti un album il n'y a pas longtemps,
Start the Party. Justement, je voulais y venir après, mais on peut déjà en parler, il n'y a pas de souci.
J'ai pas mal de maxi qui sont sortis aussi et qui sont en préparation sur Audiogénic, notamment sur mon label I Am Frenchcore, et pas mal de festivals, notamment en Hollande et quelques-uns en France aussi.
Oui, tu disais que dans ton ouvrage, en tout cas, qu'il y avait un triangle d'or à une époque, c'était l'est de la France, surtout.
Oui, Metz-Nancy, Strasbourg, oui.
Oui, Metz-Nancy, Strasbourg et un petit peu les Vosges, je crois que tu précises dans l'ouvrage. Donc c'est surtout là où la culture hardcore est la plus forte, en tout cas en France. Du coup, est-ce que c'est du fait de l'Est? Après, je ne sais pas. On est plus proche de l'Allemagne, enfin la Hollande, on se rapproche de la Hollande. Oui. C'est surtout là le berceau du hardcore. Enfin, arrête-moi si je dis des bêtises, hein, le hardcore.
J'ai jamais trop su pourquoi c'était particulièrement l'Est, peut-être oui, la culture clubbing ou rêve qui est plus proche de la culture allemande et belge, même s'ils sont pas trop proches de la Hollande, je veux dire géographiquement. mais c'est clair que oui, c'est là que ça a le plus pris. La région de Toulouse aussi, enfin Toulouse et la région de Toulouse aussi, c'est un point chaud du hardcore en France.
Voilà, cette culture s'est vraiment développée, soit à Toulouse ou effectivement ce fameux triangle d'or. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ton livre? J'imagine dans toutes les bonnes librairies, que ce soit numérique ou physique.
Je ne sais pas s'il est en librairie, mais on peut le commander sur le site de Signal Zéro.
Oui.
J'ai pas l'adresse en tête, mais je te la...
Non, mais oui, après, de toute façon, moi, je mettrai en tout cas sur les réseaux sociaux. Voilà, l'éditeur, donc, c'est Clément. Oui. Et c'est surtout Florian qui écrit. Enfin, il a fait d'autres ouvrages, enfin, bien sûr, ta biographie, mais d'autres ouvrages aussi sur les musiques électroniques. Donc, on peut retrouver, du coup, sur le site Signal Zéro, donc, qui est l'éditeur, notamment, de ta biographie. Je voulais te remercier, en tout cas, d'avoir pris un petit peu de ton temps pour répondre à mes questions.
Pas de problème, merci à toi.
Et comme je disais, retrouver en commande sur Signal Zéro l'ouvrage de DJ Radium, donc de Daniel, Le Théâtre du Bruit. Si vous voulez vous procurer cet ouvrage pour découvrir le hardcore, pour ceux qui ne connaissent pas ce genre musical, ou justement pour les gens qui justement sont confirmés, qui sont très, très fans de ce son, de pouvoir découvrir un petit peu tous tes 30 ans de carrière au travers de toutes ces pages où vous pouvez retrouver toute l'histoire de Daniel, DJ Radium. Et je te remercie encore une fois.
Merci à toi.
Bonne soirée, et puis écoute, on reste à l'affût du coup de tes événements, en se connectant surtout sur Instagram, comme tu disais, pour trouver un petit peu la liste des événements que tu peux faire, et puis tes productions, donc sur tes différents labels, notamment Audiogénic. Voilà, bah écoute, bah merci encore et puis bah je te souhaite une bonne soirée.
Merci à toi. Bonne soirée à toi aussi.
Merci, à très bientôt.
À très bientôt.
I wish I could fly, I would dance to the limits until death comes. Sorry for those who don't give me. I was made for what should be. I'm the bony one. Bony, your bony one. I'm a lullaby, a bullyby can fly at I. I'm a lullaby, I know that I can rely.
L'émission se termine, j'espère que vous avez apprécié. Retrouvez dès demain le podcast de l'émission sur les plateformes habituelles. Plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux d'Ambient Memory. Vous avez pu écouter durant l'interview de DJ Ranium les morceaux suivants. Nose Theater du duo Micropoint, album Neurophonique. Renegade Return de l'album In Extremiste. Party Starter du dernier album de DJ Ranium intitulé Start the Party et Mastermind de Micropoint. Vous souhaitez vous procurer l'ouvrage de DJ Ranium, il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez aussi tenter de gagner le livre en jouant à notre jeu concours. Restez connectés sur les réseaux d'Ambient Memory. Je vous donne rendez-vous, quant à moi, la semaine prochaine pour un nouveau voyage. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao.
Ambiante Memory.